Ah, c'est à toi, ça, qu'il est dans les marches dehors. Faites-en pas, il n'y a pas de voleur qui est parti avec. En tout cas, j'espère que non, là. Dernière fois que j'ai vu, il y en avait un qui a une sacoche qui était là. OK, donc dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est notre verset pour s'introduire parce que c'est ce dont nous allons parler. C'est thématique. OK, si vous avez écouté un matin, vous allez vous douter un peu de quoi que je vais parler.
Les héros de la foi.
Ben, en fait. En plus, j'ai dit Hébreux 11. Là, j'ai vendu le punch, là. En fait, on ne va pas parler des héros de la foi, mais on va parler de la foi. OK? Fait qu'Hébreux 11, 6. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît par cœur? 11, 6. Moi, je le sais. Des fois, je le porte de travers.
S'approche de Dieu.
Crois
que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Ah! Hey, tiens, il m'a donné un chocolat.
Facile.
Tiens! Hein? Oh, hey! Go ahead! Comme dirait M. Côté, go ahead!
Go ahead. Faith is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him.
Amen! Amen, brother! OK. Donc, ben là, on va lire quand même ensemble. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Croyez-vous que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On pourrait vraiment décortiquer ce verset-là, peut-être ça, mais je veux vraiment prendre le temps avec le message de cet après-midi de développer la notion de la foi, de croire, ou pour être plus précis, de choisir de croire à la vérité. Vous savez, Jésus est la vérité incarnée, et la parole de Dieu, la parole écrite, c'est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, on va simplement regarder ensemble ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à ce que Dieu, appelés à connaître ce que Dieu dit et reconnaître que c'est vrai, puis à décider d'y croire. On a le choix. Dieu nous dit, c'est le même. OK, j'y crois-tu? C'est pas très compliqué, hein? C'est ça qu'on va regarder, mais on va voir les implications de ça. Parce que quand ça arrive, c'est comme ça que Dieu transforme nos vies. La puissance transformatrice de la parole, lorsqu'on y ajoute foi, lorsqu'on la mélange avec notre foi. Ça dit dans Hébreux, justement, aussi au chapitre 4, que la parole ne leur servit de rien parce qu'ils ne l'ont pas mélangée avec leur foi. Les gens dans le désert, ils ont viré en rond pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas pris la foi, puis ils n'ont pas pris la parole, puis le mélanger avec leur foi, se l'approprier pour eux. Donc, on va regarder comment ne pas tomber dans ce piège. En guise d'introduction, juste quelques petits points. La foi, c'est un point critique pour la vie chrétienne, pour la croissance chrétienne. C'est-à-dire que c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous le connaissons? Puis est-ce que nous y croyons? Et ça, peu importe, et c'est là souvent que le bas blesse, peu importe comment qu'on se sent, peu importe les hauts et les bas de notre vie. Et on a des hauts et des bas, on est-tu des êtres stables et toujours pareils? Non, on a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans nos cœurs, dans nos circonstances, OK? Mais l'appréciation et l'appropriation et la pleine jouissance de ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ, c'est ce qui va faire que je vais avancer justement contre vents et marées. Puis c'est comme ça que Dieu va continuer. Et ça dépend des choix de foi que je vais faire ou ne pas faire. C'est vraiment là que ça va jouer. Et ce choix est déterminé par ce que je crois. Ce que je crois réellement, pas ce que je dis croire, ce que je pense croire. Puis on va voir justement parce que ce qu'on croit, là, ça se démontre concrètement par les choix que je fais puis qui vont se concrétiser dans ma vie. Si je veux savoir à quoi je crois réellement, il ne faut pas que j'écoute ce que je dis ou ce que je pense, mais il faut que je regarde ce que je fais. D'ailleurs, on a un passage là-dessus dans la parole de Dieu, vous le connaissez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, autrement dit, il entend la vérité, mais il n'ajoute pas foi, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre,
celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on va voir trois caractéristiques d'une personne qui choisit de croire à la vérité. D'abord, la première caractéristique, c'est la foi, c'est... OK, c'est très simple, mon premier point, là. C'est simplement de croire à ce qui est déjà vrai. OK, on n'a pas besoin d'inventer ce quoi on a à croire. Tout est là. Dieu nous a déjà dit, il nous a donné la vérité. La foi, c'est simplement d'y croire à ce qui est déjà vrai. On a lu Hébreux, chapitre 6, verset 1, ça dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et comme je le disais en introduction, la foi, c'est dans le fond de découvrir, de trouver la vérité, puis décider de s'y confier, d'y croire, pour nous-mêmes, pas pour le voisin, pas à la place du voisin, mais de s'y confier, la recevoir. Un bon exemple de ça, vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel de David et Goliath. Comment ça a commencé avec les soldats d'Israël qui étaient figés par la peur face à la menace de l'impressionnant géant? Mais David a été animé de la pensée, comment ose-t-il défier l'armée du Dieu vivant? Puis, il l'a tué. Pourquoi il y avait une si grande différence entre une armée, Israël, et un jeune homme, David? La réponse de la foi. Les deux étaient menacés par la même situation, ils voyaient la même chose, là. Mais alors qu'Israël voyait le géant en relation avec eux-mêmes, il était saisi de peur. De son côté, David voyait Goliath en relation avec Dieu. Puis il dit, il insulte le Dieu vivant. Voyez-vous, ça changeait absolument tout. Et donc, David acquiesçait la vérité telle qu'il était. Il le voyait comme quelqu'un qui était complètement déplacé par rapport à qui est Dieu. Il insultait l'armée du Dieu vivant. Et donc, il pouvait avancer avec courage à cause qu'il avançait à ce qu'il voyait de Dieu et non pas de lui-même ou des autres. En fait, on peut dire que David voyait la situation comme elle était réellement. Et c'est ça, la foi, c'est reconnaître les choses telles qu'elles le sont vraiment. C'était quoi la vérité? Ce gars-là se prenait pour un autre, il avait une grosse armure, il était bien grand, mais il insultait le Dieu vivant, puis il n'était pas plus grand que le Dieu vivant. Puis il insultait par ses dieux, puis tout ça, qui n'étaient même pas des dieux. Donc, c'est qui avait le bon jugement de la réalité, de la vérité? C'était David, c'est les autres qui étaient dans leur imagination, puis qui avaient peur. Une bonne illustration pour vous montrer comment on peut répondre des fois à ce qu'on sent qui nous menace. Voyez-vous, nous avons tous la foi. Même un athée a la foi. En quelque chose ou en quelqu'un. On se confie tout en quelque chose. En soi-même, en une religion ou dans Dieu vivant. Alors la question, c'est pas si j'ai la foi ou non, mais où est ma foi? En qui ou en quoi? En quoi est ma confiance? Tu sais, vous pouvez vous lever un beau matin et dire, moi là, j'ai confiance, j'ai foi que je vais me faire un avion à pédale, d'ailleurs ça existe, là. Mais je vais traverser l'océan Pacifique avec, déjà Atlantique, ça serait déjà toute qu'une job, là, peut-être avec le vent dans le dos, là, mais tu sais, vous dire, moi j'y crois, là, vraiment, là, je pense que je peux, tu sais, vous avez la foi, mais elle n'est pas à la bonne place. Je veux dire, vous allez avoir toute la foi du monde, ça ne va pas vous amener au bord de l'océan Pacifique. Alors, à moins que vous tombiez sur Honolulu, là. Mais même là, je pense que c'est loin, hein? Je pense que c'est un bon bout aussi. Donc, la question, c'est pas tant est-ce que je crois, est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai la foi, mais qu'est-ce que je crois? Où est ma confiance? En quoi j'ai foi? Et encore, on a une autre illustration dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18. Le concours entre Élie et les prophètes de Baal. Et on voit que ces prophètes-là, là, wow, ils mettaient le paquet. Ils allaient même jusqu'à se faire des incisions pour faire descendre le feu du ciel. Mais le feu n'est pas descendu. Élie n'a pas dit grand-chose. Il a fait une petite prière pour que Dieu se glorifie puis se montre. Puis, paf, le feu est descendu du ciel de façon spectaculaire. Puis, il y avait même... Au golf, on appelle ça un handicap, là, il avait mis de l'eau, puis l'eau était rare, puis en tout cas, c'était toute qu'une démonstration de la puissance de Dieu. Donc, la question ici avec Élie et les prophètes de Baal, c'est pas... Ah, c'est qui avait le plus de foi? Ben, on pourrait dire, les prophètes de Baal, avec ce moment-là, avoir plus de foi, ils se donnaient tellement de misère, ils avaient tellement mis le paquet, puis l'autre, il a juste dit une petite prière. C'est que la question, c'est que... Tu sais, plutôt, c'était la question, c'était en quoi était leur foi? Dans Baal qui est mort ou dans Dieu qui est vivant? Dieu qui est vivant, t'as pas besoin de faire des simagrées et tout ça. Tu l'invoques, il répond. Élie n'avait pas besoin nécessairement de beaucoup de foi, mais simplement de la mettre dans le Dieu vivant et tout-puissant qui peut faire descendre le feu du ciel. C'est ça la grande différence. Maintenant, la foi vivante est dans le Dieu vivant et vrai. Et la foi qui est de cette nature... C'est elle qui change les choses. C'est elle qui déplace les montagnes. Et c'est celle qui est placée dans le Dieu vivant. Et ce Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 13 et le verset 8. Peut-être que vous... En fait, c'est le genre de verset que vous connaissez, mais vous ne vous en rappelez plus, parce que c'est un petit verset qui n'est pas très long. On l'entend souvent dans la prière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que Dieu... Et la personne en qui on peut toujours se confier, parce qu'il ne change pas. Il n'y a pas de mauvais jour qui n'a pas le goût de répondre à nos prières. Il n'y a pas de mauvais jour qui s'est cassé une jambe et qui n'est pas capable de se lever. Puis Dieu est éternellement le même. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que non seulement on peut toujours y faire confiance, mais aussi qu'on peut être assuré qu'il ne va jamais nous délaisser, nous laisser tomber. Et d'ailleurs, c'est une promesse, c'est aussi une citation de l'Ancien Testament, mais dans Hébreux, au chapitre 13, verset 5 et 6, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. » Vous voyez, c'est la foi en Dieu. « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Et ici, c'est un bon exemple. La question, c'est l'argent. Okay? L'argent, je pense, est bien révélateur aussi de voir où est ma foi. Parce que Jésus, n'est-ce pas, qui a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu des richesses. » Et pour connaître ou découvrir où est réellement notre confiance, pas dans ce que je dis ou ce que je pense, qu'est-ce que je fais? Par exemple, une façon concrète, avec mon argent, c'est quoi mon rapport à l'argent? Est-ce que c'est un rapport de crainte? Un rapport de confiance. Est-ce que l'argent me dirige ou l'argent est ma servante? C'est féminin? Oui. En tout cas, est-ce que l'argent se sert de moi et me dirige ou est-ce que l'argent me sert et c'est une commodité que j'utilise? Matière à réflexion. C'est le premier point. La foi, c'est simplement croire à ce qui est déjà vrai. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui choisit de croire à la vérité, il comprend que la foi grandit lorsqu'elle est mise en pratique. La question de la foi, ce n'est pas des belles théories qu'on écrit sur un tableau, puis qu'on prend des notes. Là, puis ça, je l'ai dit souvent dans cette église. La vraie vie chrétienne, puis les vraies choses qu'on apprend, puis c'est important d'être ici, assis ici à l'église, puis on est nourri des paroles de vérité, mais les grandes leçons de vie, la vraie école de la vie chrétienne, c'est pas assis dans un banc d'église, c'est dans la dureté du quotidien, dans le... Attends, c'est qui avait dit, quelqu'un qui disait, pas la cruauté du quotidien, il y avait un auteur, c'est-tu C.S. Lewis, qui parlait de la, genre, tu sais, le quotidien, là, oh, mais c'est, des fois, le quotidien, il n'y a pas de merci. Ah, mais tu te réveilles cette journée-là, là, on dirait qu'elle n'a pas pensé à toi, puis elle ne veut pas être fine, puis, hein, c'est vrai, je pense que c'est la cruauté du quotidien, quelqu'un qui avait employé cette expression. Donc, la foi, elle grandit lorsqu'elle est mise en pratique. La foi est vivante, est comme une graine vivante. Ben, lorsqu'on la plante, elle va pousser, elle va porter du fruit. Alors, on n'a pas à se dire... Des fois, on a des mauvais raisonnements sur la foi. Ah, si seulement j'avais la foi comme un tel et un tel. Des fois, on lit... Ah, si j'avais la foi comme Georges Muller. si j'avais la foi comme Hudson Taylor, si j'avais la foi comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas? On pense ça. Waouh, ben en fait, on peut avoir, parce que la foi, c'est simplement de choisir de se confier dans ce que Dieu dit, dans le Dieu qu'Hudson Taylor a mis sa confiance, l'apôtre Paul, George Muller et compagnie. C'est le même Dieu. Et tout le monde peut faire ça. De la même façon que pour être sauvé, on met notre foi en Jésus-Christ, ben pour la vie chrétienne, on met notre foi en lui pour la suffisance de notre vie, comme on l'a vu ce matin. Et je crois que c'est précieux, c'est important de mémoriser, d'étudier la parole autant individuellement puis collectivement. Ça a vraiment sa place, c'est important. Mais la foi, c'est pas comme ça qu'elle grandit. C'est pas le moyen par lequel elle grandit, mais lorsqu'on prend ces vérités, qu'on a médité, qu'on a appris, qu'on a entendu ensemble à l'église, qu'on les prend et qu'on apprend à les mettre en pratique, c'est là qu'on va découvrir, ah, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Ah, je l'ai découvert pour moi-même. Tu sais, cette promesse-là, waouh, ça... Puis là, on se rend compte que Dieu est digne de confiance. C'est pas juste un Dieu théorique, un Dieu duquel on lit dans un livre, c'est le Dieu vivant qui est là dans le quotidien. Et c'est pour ça que Paul, à qui a été révélé beaucoup de la parole, il dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et donc, on doit apprendre à connaître notre Dieu. Et Dieu, il est l'objet de notre foi. Dieu, c'est lui, c'est en lui qu'est notre confiance. Comme je l'ai dit ce matin, Paul n'a pas dit, je sais en quoi je crois. Il savait en quoi il croyait, mais il dit, je sais en qui je crois. Et de ça découlait tout ce qu'il croyait. Apprendre à connaître Dieu, l'objet de notre foi, nous prouve, nous convainc que nous pouvons lui faire confiance avec tout. Plus on lui fait confiance, plus on se rend compte qu'il est digne de confiance. Et ça, comme je l'ai dit, non seulement ça ne s'en prend pas juste en théorie, mais ça s'apprend dans le quotidien, mais aussi ça s'apprend progressivement. Des fois, on peut trouver justement, on lit une biographie ou on entend parler d'un témoignage d'un frère, d'une soeur, puis on trouve ça impressionnant. On dit « Wow! Dieu a tellement fait des grandes choses avec cette personne-là. » Puis là, nous, on voit ça comme si c'était inatteignable. Ben, Dieu ne nous demande pas de faire l'inatteignable. Dieu nous demande de faire ce que lui nous demande de faire là où nous, on est rendu. Il veut que la foi qu'on a, qu'on la plante pour faire pousser ce que là où est-ce qu'on est rendu. Le pas où est-ce que nous, il nous a amené pour qu'on grandisse et que là, on aille plus loin. Pensons à la vie d'Abraham. C'est quoi le climax de la vie d'Abraham? C'est quoi le sommet là, de sa vie? Puis ça pointe tellement tout à Christ. C'est quoi, quand on parle de la foi d'Abraham, quand il a sacrifié son fils Isaac dans Genèse 22, est-ce qu'il est arrivé là? Dieu, tu commences avec ça, OK, Abraham, là. Non, il y a eu bien des affaires. Puis là, il a fait un pas de foi, là, hop, il est tombé, il s'est relevé, puis il s'est relevé par la foi, il a ajouté foi à ce que Dieu disait, qu'il répétait constamment son alliance. Puis il est arrivé à ce point-là. C'est comme ça aussi, nous autres, on doit commencer simplement par ce qu'on sait être vrai et choisir d'y croire. Puis après ça, le Seigneur va nous amener au point suivant. On n'a pas à s'inquiéter. Dieu va nous amener plus loin à partir de là où est-ce qu'il nous amène en ce moment. Et de grâce, ne commencez pas par comment vous vous sentez par rapport à ci ou ça. Parce que ça, c'est la voie de la catastrophe. Parce que nos émotions changent, on se sent pas toujours pareil. Des fois, on peut se sentir, paf, crinqué, d'aplomb. Des fois, on se sent à terre complètement, pas de batterie. Et si on y va comme ça, selon comment je me sens par rapport à quelque chose, je ne m'engage pas vers la voie de la victoire. Mais je vais m'approprier la victoire en agissant selon la vérité, malgré comment je me sens. Pas à cause de comment je me sens, mais malgré. Et de là va découler des bons sentiments, puis je vais me sentir bien. Vous avez déjà entendu, peut-être que même si c'est dans les premiers pas de votre vie chrétienne, le train de la foi, avez-vous déjà entendu ça parler, l'expression du train de la foi, il y a trois wagons. Hein? École du dimanche, hein? La parole de Dieu, la vérité est en avant, tire et dirige. Ma foi s'accroche à ça, c'est le wagon de la foi qui s'accroche. Puis après ça, mes émotions, les sentiments vont suivre. Si je mets comment je me sens en premier, mon train déraille. Donc, la parole dirige, je m'y attache par la foi et de là va découler les sentiments. Ça m'amène à la troisième caractéristique de quelqu'un qui choisit de croire à la vérité. Il comprend que la foi est démontrée par nos actions. La foi est démontrée par nos actions. Je vous lis Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Si les démons croient, ça veut dire que juste croire de même, il manque un bout. La foi est démontrée par les actions. Les démons croyaient que Jésus était vraiment Dieu. Ils disaient, tu es le fils du Dieu très haut et tout ça. Mais ils ne se confiaient pas en lui, puis ils le reniaient, puis bon, il était ennemi. Tandis que la foi vivante, elle produit du fruit, elle va donner quelque chose. Et je dirais que dans notre culture actuelle, qu'on appelle postmoderne, le terme foi, souvent, est galvaudé. Et perd de sa richesse, de sa puissance. Des fois, là, tu sais, foi, là, ça peut être comme... garde la foi, tu sais, un peu comme pense positif, tu sais. Oh, j'ai la foi. Tu sais, même des fois, c'est pour croire, là. Oh, je crois que tu as raison. Tu sais, c'est pas que tu exprimes une grande foi dans la personne. Oh, je crois bien, tu sais. C'est comme un peu diminué. Ça n'a pas la signification, la force biblique de confiance, comme il est exprimé par rapport à ce qu'on doit avoir comme confiance en Dieu. La foi biblique, elle n'est pas fondée sur ce qu'on dit faire, mais ce que nous faisons en réalité. Alors, si on veut savoir ce qu'on croit vraiment, on doit regarder à ce qu'on fait vraiment. Et là, un exemple tellement facile. On parle, ça a sorti beaucoup d'un temps de prière, puis on sait ici, on vit tous des difficultés, des épreuves. Pas tout le monde les mêmes, pas tout au même niveau. Mais la question, quand j'ai ces temps difficiles, ces épreuves, c'est là que je peux voir vraiment le plus grand potentiel pour grandir dans le Seigneur, pour découvrir sa fidélité, qui il est, comment ses promesses sont vraies. Mais c'est là aussi, c'est parce que c'est l'occasion de me confier en lui pour de vrai. Pas juste ce que j'ai dit sur Dieu, mais là vraiment, là, que je t'ai prouvé, je la mets où ma confiance? Où est-ce que je me tourne? Si j'ai une santé précaire, c'est où mon réconfort, puis est où ma joie quand que c'est vraiment dur d'être joyeux? Si ma situation financière est vraiment fragile, est où ma confiance? Est où ma sécurité? Si mon futur semble tellement incertain, puis là je sais pas comment ça va virer, puis je sais même pas trop quelle décision je dois prendre, tout semble avec des points d'interrogation. C'est là le moment qu'on décide de placer notre confiance en Dieu ou en quoi que ce soit d'autre. Et vraiment, c'est là qu'on voit que la question, c'est où est ma confiance? Où est ma confiance? Et tout chrétien doit faire le choix. On choisit. La question, c'est où est-ce que je vais placer la confiance lorsque je choisis? Donc, savez-vous que tout chrétien peut décider d'être mature, de porter du fruit? Tout chrétien peut résister à la tentation. Là, je parle pas par nous-mêmes, là, mais par Christ qui nous fortifie. On peut sortir du désespoir. On peut rejeter les forteresses de mauvaises habitudes, de mauvaises influences, avancer sur la voie de Christ, notre victoire. Tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir une espèce d'onction spéciale, peut-être dans le club sélect des super chrétiens. Tout chrétien qui est racheté, qui a l'esprit du Dieu vivant en lui, peut le faire. Mais c'est simplement en reconnaissant ici la vérité et décider d'y croire, la mettre en pratique, puis d'agir selon ces faits-là. Okay? Connaître ce qu'on sait être déjà vrai, choisir d'y croire, puis d'agir selon ces faits. Rappelez-vous, j'avais déjà donné l'illustration. Mettons qu'on est exposé à une image ou à entendre quelque chose qu'on ne devrait pas voir, qu'on ne devrait pas entendre. Qu'est-ce que j'ai le choix de faire? Je peux essayer de me battre puis répondre avec la chair. Non, faut pas. Ou je peux me tourner vers le Seigneur dans mon cœur et dire, Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, merci que... c'est suffisant. Juste se tourner vers Dieu dans la reconnaissance pour ce que j'ai déjà. Puis là, détourner le regard. Voyez-vous, je reconnais, je décide de croire ce que je sais déjà, que Jésus est suffisant, hein, qu'il est la vie. On sait déjà tout ça. Mais je décide d'y croire. Puis là, j'agis selon ça, je détourne le regard. C'est sûr que si je garde les regards ou si je continue à tendre l'oreille, ben là, je cède à la tentation. Mais lorsque je suis exposé, si je réponds avec, face à Dieu, il va me donner la grâce. Puis non seulement je vais détourner le regard, mais je vais détourner mon cœur. Si j'essaye bien fort, je mets mon regard ou mon oreille, peut-être que mon oreille a le goût de continuer à entendre. Puis ben, c'est vraiment quelque chose du cœur. C'est pas juste extérieur. C'est la réalité intérieure. Et ça, Dieu le fait dans sa grâce. Lorsqu'on se tourne vers lui comme ça, il le fait, il nous donne la capacité. Et il est toujours fidèle. Il est toujours au rendez-vous. C'est ça que ça dit, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine, mais avec la tentation, au même moment, il donne le moyen d'en sortir. Au moment où est-ce que je suis exposé, si je me tourne vers lui, Jésus est le moyen d'en sortir. Il est la porte de sortie.
Amen.
Alors, c'est pour ça que je veux conclure avec, OK, j'ai besoin de deux volontaires, comme l'autre fois. Non, juste pour distribuer des... T'as peur? Non, non. OK. Ah, non, non, pas pour... Juste pour... Ah oui, je comprends à quoi tu pensais. Ah, vous avez... Ça, j'ai déjà vu ça dans des conférences jeunesse. Genre, on vient pour une illustration, le petit gars tout gêné, puis là, il fait rester en avant pendant une demi-heure, puis ah oui. Ouais, ouais, venez en avant, puis vous allez lire ce qu'on va lire. Non, mais je vous distribue une feuille, ça s'appelle les 20 « Je peux » du succès. C'est traduit de l'anglais, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça vient de l'expression « The 20 cans of success ». Cans, tu sais, parce que « like a can ». Ouais, c'est ça. C'est un jeu de mots en anglais, mais en français, ça marche pas. Donc, pendant que je vous distribue ça, je donne, là, OK, vous allez le regarder un petit peu. Toujours pareil, quand on donne une feuille, là, on peut, je peux pas dire quelque chose que je veux que les gens retiennent, parce que non.
Après ça, vous allez parler.
Là, je peux dire n'importe quoi, là. On l'a-tu le beau temps? OK. Ah, that's it? Ça arrive flush de même? Vous en avez-vous? OK. Il m'en reste deux. OK, merci, les gars.
On verra la suite d'un livre de l'évangile de la prospérité.
Non, c'est ça.
C'est vrai, hein? C'est vrai, pareil! Non, mais vous allez voir en lire que c'est vrai, pareil. Hey, puis l'autre jour, ma femme et moi, on est allé marcher, puis j'ai trouvé un livre, là, le gars, là, tu sais, dans les années 70, quand il y avait des beaux complets vestons bruns, là. Le gars, genre, tu vois, sur le dessus, il a son complet veston brun, puis ça dit « Comment avoir du succès et se faire des amis? » Si tu prends la recette-là, peut-être tu vas avoir des vieux amis, là, tu sais. Ah non, mais tu vois le gars sur le dessus, hein? C'était tellement kitsch, comme tu vois, regarde la chaise, genre, mais c'est une caricature. Pour moi, quelqu'un l'a mis sur le banc parce qu'il voulait faire une joke ou je sais pas quoi. Là. En fait, peut-être qu'il y avait une caméra cachée, tu sais, les affaires, là, caméra cachée, là. Quelqu'un, comment qu'on réagit à ça? Moi, j'ai regardé ça au Jeremy là. Mais. Puis le gars avec une grosse moustache, tu sais, comme. Ah, c'était tellement comme caricatural des années 70, là, le bel habit brun, puis la grosse cravate, tu sais, ça de large rouge, là. Oh, yeah. Bon, OK, là j'ai l'attention à tout le monde. Là. OK, là ben justement, là, puis frère, je vais faire un peu le tremplin sur ce que tu dis. Il n'y a pas de formule magique. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, hey, vous avez la formule du succès. C'est ici, on est contre les formules. Ici, on est pour Jésus-Christ. Puis tu sais, il est la formule, il est la vie, la solution, il est tout ce qu'on a besoin. Mais l'idée ici, c'est que c'est des vérités qui, lorsqu'on se les approprie, elles produisent du fruit. OK? Fait que je veux simplement terminer avec ça. Ah, les autres, ils rient, puis là, je me demande pourquoi. Ah, ça m'énerve, ça. OK, mais là, je veux juste vous dire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est une genre d'autre feuille que vous pouvez mettre avec l'autre que je vous ai donné l'autre jour dans votre Bible. OK? Parce que c'est simplement des phrases qui sont reliées à des vérités de la parole. OK? C'est rien de bien, bien compliqué. Mais... ce que je veux amener par rapport à ça, ces vérités-là vont m'affecter de façon proportionnellement directe. Oui, je peux le dire de même. Je ne sais plus trop comment. Ils vont m'affecter de façon directement proportionnelle à comment j'y crois, à comment je m'y confie. Puis ça, c'est bon de les revisiter, puis cette journée-là, se confier dans cette vérité-là par rapport à ce que je vis, ce que le Seigneur me montre et tout ça. Et donc, c'est bon, on va prendre l'occasion ensemble de le lire. Ça va être la conclusion du message. Puis, je vous invite à les revisiter. Pourquoi devrais-je dire que je ne peux pas alors que la Bible que je dit que je peux tout par celui qui me fortifie? Pourquoi serais-je en manque alors que je sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Et là, juste un petit aparté, là. Quand on lit ça, il faut tout lire par rapport à notre union avec Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que l'évangile de la prospérité a tendance à prendre des vérités de même, hors contexte, puis donne ça comme des nananes. OK? Bon, vous comprenez, là, avec la philosophie de cette Église, puis comment notre compréhension, puis notre façon qu'on prend les Écritures, qu'on ne comprend pas tout ça de même. Là. C'est à la lumière de ce que nous sommes en Christ, là. OK? Tu sais, Satan prend tout le temps des vérités, puis il les twist. Puis il en fait quelque chose de mauvais. Pourquoi devrais-je avoir peur lorsque la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse? Puis dans le fond, pourquoi c'est ça? C'est réfléchir là-dessus. Si ça, c'est la vérité, pourquoi je m'en ferais? Voyez-vous, c'est ça l'idée de l'exercice. C'est de tester ma foi, la lumière. Tu sais, pourquoi ma confiance, elle serait troublée si ça, c'est la vérité? C'est ça l'idée ici, là. Numéro 4, pourquoi devrais-je manquer de foi pour accomplir mon appel, sachant que Dieu m'a attribué une mesure de foi? 5, pourquoi devrais-je, puis là les références, je ne vois pas toutes les listes, ça serait long, là, mais pourquoi devrais-je être faible alors que la Bible me dit que l'Éternel est la force de ma vie et que je vais démontrer la force et prendre action parce que je connais Dieu? Pourquoi devrais-je permettre à Satan d'avoir la suprématie sur ma vie quand celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Pourquoi devrais-je accepter la défaite lorsque la Bible dit que Dieu me conduit toujours au triomphe? Pourquoi devrais-je manquer de sagesse alors que Christ est devenu sagesse venant de Dieu et que Dieu me donne la sagesse généreusement quand je lui la demande? Pourquoi devrais-je être déprimé lorsque je peux me rappeler la bonté de l'amour de Dieu, sa compassion, sa fidélité et avoir l'espérance? Oh, et ça, mes amis, là, ça, c'est un de mes passages préférés de la Bible, Lamentations 3, là. Wow! C'est de l'or en or. Pourquoi devrais-je m'inquiéter 10 et me tracasser alors que je peux me décharger de tous mes soucis sur Christ qui prend soin de moi? Pourquoi devrais-je être dans la servitude, sachant que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté? 12. Pourquoi devrais-je me sentir condamné alors que la Bible dit que je ne suis pas condamné parce que je suis en Jésus-Christ? Pourquoi devrais-je me sentir seul alors que Jésus dit qu'il est avec moi toujours et qu'il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera? On a vu ce verset-là tantôt, Hébreux 13:5. Pourquoi devrais-je me sentir maudit ou victime de la malchance alors que la Bible dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi afin que je puisse recevoir son esprit? 15. Pourquoi devrais-je être mécontent alors que, comme Paul, je peux apprendre à être content dans l'état où je me trouve? Pourquoi devrais-je me sentir sans valeur alors que le Christ s'est fait pécher pour moi afin que je devienne en lui justice de Dieu? Le rachat, hein, on voit, c'est ce qui nous donne de la valeur, ce que Dieu a fait de nous, c'est grandiose. Numéro 17. Pourquoi devrais-je avoir un complexe de persécution, sachant que personne ne peut être contre moi puisque Dieu est pour moi? 18. Pourquoi devrais-je être confus alors que Dieu est l'auteur de la paix et qu'il me donne de la connaissance par son esprit qui habite en moi? Pourquoi devrais-je me sentir... sentir que j'ai échoué alors que je suis vainqueur en toutes choses par Christ? Et finalement, pourquoi devrais-je laisser les pressions de la vie me déranger alors que je peux prendre courage en sachant que Jésus a vaincu le monde et ses tribulations? Amen! Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais prier, et si vous voulez, après, vous avez l'occasion, vous aussi, de prier.